Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
Et si je viens vers Marlène et que je lui donne un sac rempli de boîtes de médicaments, qu'est-ce qui va se passer? Non, tu peux pas aller vers elle. Non. Mais c'est peut-être pas l'ordonnance qui va avec les médicaments. Je te donne une ordonnance et elle, je lui donne un paquet de médicaments. Je sais ce dont elle souffre. Je lui donne toute une ordonnance. Est-ce que ça va lui être utile à quelque chose si elle n'a pas les médicaments? La loi vous dit tout ce qu'il faut faire quand ça ne va pas. Mais si vous n'avez pas les médicaments, vous ne pouvez rien faire. La grâce, elle te donne les médicaments, mais elle ne te donne pas l'ordonnance. Qu'est-ce qui va se passer? Tu peux en prendre trop. C'est de l'hypergrâce. Et à partir de là, on peut vivre selon la chair et on peut se mettre en danger. Ou alors en prendre trop peu de la grâce. Ce qui fait que là, on ne peut pas guérir si on ne prend pas le bon dosage. C'est juste pour vous aider à comprendre que la loi et la grâce, ça marche ensemble. Ça ne marche pas indépendamment l'un de l'autre. Il faut qu'il y ait le diagnostic de notre pathologie spirituelle et la loi aide à le poser. Et elle dit concrètement ce qu'il faut faire pour. Et puis la grâce, elle nous donne le remède, la manière de pouvoir y arriver, de pouvoir correspondre à ce que Dieu veut pour nous. On va parler de la plénitude de la grâce ce matin. C'est le début d'une série sur la plénitude. On se verra à peu près 3 fois, je pense, sur cette thématique de la plénitude. Et le texte sur lequel on va s'attarder ce matin, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Donc, dans le prologue de Jean, au commencement, vous connaissez, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est juste merveilleux que de lire ça. Au verset 14 et au verset 16, il est dit « La parole a été faite chair ». Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et nous avons tous reçu, verset 16, de sa plénitude et grâce pour grâce. Lorsque l'apôtre Jean commence son évangile, il en vient rapidement à présenter Jésus-Christ comme étant la parole faite chair, le logos en grec incarné. Ses propos sont comme une louange, un cri d'acclamation, poussé par les chrétiens de tous les siècles. Il est la parole incarnée, il est le Verbe vivant. Quelle grâce, en effet, que Dieu se soit fait homme pour habiter parmi l'humanité. C'est une grâce. Vous pouvez faire l'étude comparée de toutes les religions. Quand on est pasteur, on s'amuse à faire ça dans nos études. Vous verrez qu'il n'y a que le christianisme où Dieu s'est incarné, réellement. Certaines mythologies parlent de demi-dieux, de croisements entre des dieux et des femmes qui font des moitiés dieux, etc. Mais le christianisme annonce l'incarnation de Dieu venant habiter au milieu des hommes. Quelle grâce que celui qui a créé toutes choses et pour lequel toutes choses ont été créées dès le commencement soit descendu au milieu des hommes déchus, faibles, et mortel pour se faire homme parmi les hommes. Christ n'a pas fait un bref passage sur terre en tant que Dieu. D'ailleurs, il ne disait pas à tout bout de champ « Je suis Dieu ». Il n'a pas fait un bref passage sur terre en tant que Dieu, non. Il est venu habiter sur la terre en étant à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Le texte dit littéralement qu'il a tabernaclé, c'est-à-dire qu'il a fixé sa tente au milieu de nous, par parmi les hommes. Plein de grâce et de vérité. C'est-à-dire avec une bonté et une objectivité entière et parfaite. Mais quel est cet homme ? Une bonté et une objectivité entière et parfaite. Rien ne venait altérer ses jugements, ni son émotion, ni les constats de situation. Il n'œuvrait pas sur des ressentis, mais uniquement par des révélations. Ça ne voulait pas dire qu'il était défait de tout sentiment. Il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur la mort de son ami Lazare. Néanmoins, il y avait en lui cet équilibre parfait. Les émotions ne venaient pas éteindre la spiritualité. La spiritualité n'était pas défaite de toute émotion. Nous, souvent, on a du mal à équilibrer entre la partie spirituelle de nos vies et la partie émotionnelle. En regardant à Jésus, on trouve l'équilibre parfait. Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel, habitant parmi son peuple, nous rappelle les glorieuses manifestations de Dieu à Israël tandis qu'il marchait dans le désert. En Christ, Dieu nous est véritablement apparu. Il est descendu à notre portée, atteignable. Quand on parle de Dieu, vous allez voir toutes les religions, en tout cas les religions monothéistes, vous leur parlez de Dieu et ils vont tous vous dire que par définition, Dieu est inatteignable. Il est Dieu. Comment pouvons-nous atteindre Dieu ? Dieu se trouve dans une dimension qui nous est impossible d'atteindre, si ce n'est peut-être par la prière. Essayez d'entrer en contact avec lui. Mais par l'incarnation, Dieu est devenu atteignable. Il est venu à notre contact. Il est descendu à notre portée, semblable à nous. Accessible aux plus pauvres, aux plus faibles, aux plus ignorants, aux plus coupables. Il n'est pas venu en visant une couche sociale de la société. Et en allant vers les plus faibles et les plus pauvres, ce n'est pas non plus parce qu'il visait les pauvres en particulier. C'est parce que quand tu te rends atteignable aux plus faibles, tu l'es forcément pour les plus forts. Mais si tu te rends atteignable que par les plus forts, les plus faibles sont disqualifiés. Alors il était à la portée de tous, de toutes. Il nous a fait cette faveur, ce cadeau immérité, et à partir de là, nous avons vu sa gloire, sa splendeur. Une gloire semblable au Fils unique venu du Père. Saisi par la majesté de cette apparition du Fils de Dieu sur la terre, l'apôtre Jean rappelle avec émotion ses souvenirs personnels. C'est-à-dire que Jean n'est pas en train de citer quelque chose qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas vécu. Il rend témoignage. Est-ce qu'il faut se compliquer la tête quand on écoute le témoignage de quelqu'un ? On prend ce qu'il nous dit. Il n'y a pas besoin de faire 50 années de théologie pour écouter un témoignage. Et Jean rend témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu, de cette rencontre qui a bouleversé totalement sa vie. Saisi par la majesté de cette apparition du Fils de Dieu sur la terre, Jean rappelle avec émotion ses souvenirs personnels, car cette gloire, Jean l'a contemplée et son âme en a été pénétrée. Dans la première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 1er, il est dit « Nous vous annonçons le message de celui qui est la parole de vie. » Il existait depuis les origines. Or, nous l'avons entendu. Entendu. Nous l'avons vu. Je vous renvoie au message qu'on vient de passer sur l'autre série, sur les sens spirituels. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Nous l'avons contemplé. Et nous l'avons touché de nos mains. Tout cela est à la fois extraordinaire et magnifique et digne de toutes nos louanges. Nous ne sommes pas des orphelins dans le monde, nous avons un Père, un Créateur. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution, d'un grand hasard. Nous avons un Créateur. Et qui s'enquiert de nous, il ne nous a pas seulement créés en disant « Maintenant, débrouillez-vous !» Il est venu au milieu de nous. Il est venu à notre contact. Et quand on lit la Bible, Dieu n'a cessé de venir au contact de sa créature. On ne l'a pas toujours reconnu. Et lorsqu'il s'est incarné, lorsque Christ est venu, en réalité, très peu de gens ont vu en lui le Dieu vivant. Le Dieu créateur. Jean l'a vu et il en témoigne. Tout cela est à la fois extraordinaire, magnifique et digne de louange. Mais Jean ne s'arrête pas là. Il ajoute au verset 16 que chacun de nous, c'est-à-dire tous les enfants de Dieu, les croyants nés de nouveau, nous avons reçu de sa plénitude, de son abondance. Il n'est pas juste passé pour nous dire « Bonjour, je suis Dieu ». Hein ? Ça vous l'a fait, hein ? Vous auriez jamais cru que je viendrais. Je suis maintenant au milieu de vous. Je vais vous dire ce que je pense de vous et après je retourne au ciel. Il n'a pas fait ça. Il n'est pas venu amener un constat, pointer les défauts, les défaillances. Bien sûr, il l'a fait. Bien sûr, il a corroboré l'ordonnance de l'Ancien Testament. Bien sûr, il a parlé de la loi. Il a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir. Je suis venu pour l'accomplir, pour lui donner sa finalité, chose que, en réalité, vous ne pouvez pas faire, vous. Moi, je vais le faire. L'exigence de Dieu est grande. C'est la sainteté, c'est la perfection. Comment pouvons-nous croire qu'on va pouvoir plaire à Dieu sans la grâce ? C'est juste inatteignable, impossible. Ce serait la plus grande preuve d'orgueil de dire « je peux satisfaire à Dieu sans l'aide de Dieu ». C'est juste pas possible. Et donc, il ne s'arrête pas là et Jean va rajouter au verset 16 que chacun de nous, nous avons reçu de sa plénitude, de son abondance et grâce sur grâce. Et la Bible, parole vivante, dit dans 1 Jean chapitre 1er, verset 16, « Nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine. » De la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous l'une après l'autre ses bénédictions et ses faveurs. C'est pas dans 1 Jean, c'est dans Jean. Excusez-moi. Il a déversé sur nous grâce après grâce. Une grâce après une grâce. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Il a déversé sur nous grâce après grâce. De quelle grâce il parle ? Et de quelle autre grâce il a l'air de parler ? Il a déversé sur nous grâce après grâce. Est-ce que c'est des couches successives de grâce ? De quelle grâce parle Jean ? Et de quelle autre grâce, puisque c'est grâce après grâce. Il a déversé sur nous une grâce après une grâce. La grâce s'est manifestée de multiples façons sous l'Ancienne Alliance. On aurait tort de penser que la grâce concerne juste la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, et que dans l'Ancien, il n'y a pas de grâce. Quand vous voyez dans le Jardin d'Éden Adam qui a péché, et que Dieu va faire un sacrifice d'animal pour venir revêtir Adam qui a conscience de sa nudité et qui en a honte. Dites-moi si ce n'est pas une grâce, un sacrifice d'animal a été fait pour extraire la peau d'un animal pour venir recouvrir l'homme qui a honte de son péché, de sa nudité, qui prend conscience de son état. Il y a une grâce. Dès le commencement, la grâce, elle est là. Et dans tout l'Ancien Testament, la grâce est là parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il ne change pas du début à la fin, il ne change pas, il reste le même. Dieu est un Dieu de grâce, il l'a toujours été. On aurait tort de penser que Dieu change entre l'ancien et le nouveau. Les obscurantismes permettent de penser comme ça. On se réfugie dans des dualismes, lumière, ténèbres, tout est bon ou tout est mauvais, etc. Mais Dieu dans l'Ancien Testament n'est pas que le Dieu coléreux, etc., etc. Il est un Dieu d'amour, il faut aller le trouver, ça. Toutes les alliances que Dieu a faites sont des manifestations de sa grâce. Aussi, Jean dit, il nous a donné une grâce après une grâce, la grâce de la loi. Est-ce que vous diriez, la loi est une grâce? Et pourtant, la loi, c'est une grâce. Dieu est venu vers nous et il nous a dit, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce que j'attends. Voilà mes critères. Je vous explique. Vous serez mon peuple. Vous serez saint car je suis saint, dit Dieu. Il faut y voir une grâce, pas une exigence. Il faut y voir un acte d'amour. Dieu vient vers nous et il nous explique. Il nous dit, vous ferez ça, mais vous ferez pas ça, parce que si vous faites ça, voilà ce qui va se passer. Il nous prévient. C'est une grâce, la loi. Et de dire que la loi, c'est juste des exigences, c'est ne pas comprendre la Bible ni le Dieu qui en a été à la source de l'inspiration. La grâce s'est manifestée de multiples façons sous l'ancienne alliance. Puis, elle a atteint sa plénitude dans le cadre d'une révélation qui est progressive, son plein développement en Christ sous la nouvelle alliance. Christ n'a pas remis en question la loi, il l'a accomplie. Il est venu y mettre un point final. Il est l'accomplissement de la loi. Il est venu apporter la grâce en réponse de la constatation que faisait la loi. Vous ne pouvez pas être sauvés si un innocent ne meurt pour vous. Les chefs d'accusation sont posés, la grâce a fait le constat. Il a déversé sur nous une grâce après une grâce. La grâce s'est manifestée de plusieurs façons. Et en d'autres mots, Christ est la source de la plénitude de la grâce. Il est la grâce manifestée. Jean chapitre 1er verset 17 nous explique que si la loi a été donnée par Moïse en a reçu la révélation de Dieu, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi n'était pas un système de grâce. Elle ne pouvait pas rendre les hommes parfaits ni leur accorder la vie éternelle, mais elle s'inscrit dans le processus. Elle ordonnait aux hommes d'obéir et les condamnait à mort s'ils ne le faisaient pas. Elle déclarait aux hommes ce qui était juste, mais ne leur donnait pas le pouvoir de l'accomplir. Elle donnait l'ordonnance, mais pas le médicament. La pathologie était déterminée, mais le médicament n'était pas donné. Elle a été donnée pour leur montrer qu'ils étaient pécheurs, mais elle s'avérait incapable de les sauver de leurs péchés. Néanmoins, sans accorder la grâce, la loi pointait vers elle. Elle ne pardonnait pas les péchés. Et même le système sacrificiel de tout l'Ancien Testament ne permettait pas le pardon des péchés. Les péchés étaient juste couverts. Ils attendaient qu'il y ait une grâce, parce que tous les péchés qui ont été faits dans l'Ancien Testament ont été pardonnés aussi par Christ à la croix. C'est-à-dire que Christ a pardonné les péchés de ses contemporains, de ceux qui vivaient à son époque. Puis il a pardonné les péchés de tous ceux qui vivraient après sa mort, nous, dès l'instant où, évidemment, il nous reconnaît pour ses fils et que nous l'acceptons comme notre Sauveur et notre Seigneur. Mais il a pardonné aussi les péchés de ceux qui, dans l'Ancien Testament, au travers du système sacrificiel, n'ont pu faire que de recouvrir leurs péchés par le sang d'une victime offerte en holocauste. Mais il fallait que Christ meure sur la croix pour que leurs péchés soient totalement effacés. Quelle grâce ! La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver ceux qui étaient indignes et incapables de se sauver eux-mêmes, c'est-à-dire nous tous. Et qui, en tant que pécheurs, demeuraient ses ennemis en rapport du péché. Le péché en nous lutte contre Dieu. Et pourtant, la manifestation du péché en nous crie notre besoin de Dieu. La nouvelle alliance en Jésus-Christ est une alliance de grâce. La parole de Dieu est la bonne nouvelle de la grâce. Quelle bonne nouvelle! Soyez, dira Paul, réconciliés avec Dieu. Si Christ n'est pas dans ma vie, je suis l'ennemi de Dieu. Christ, en mourant sur la croix, a pris la main du Père. Il a pris ma main et il nous a réconciliés. En disant, il n'y a plus aucune raison que vous soyez en brouille tous les deux, parce que tout ce qui vous séparait, c'est moi qui l'ai pris. J'ai tout payé. J'ai accompli ce qu'il fallait faire pour réconcilier la créature avec son Créateur. Quelle bonne nouvelle! Aucun terme ne pouvait mieux définir l'Évangile, à savoir le message magnifique de la faveur imméritée de Dieu envers des pécheurs. Impénitents, coupables, qui méritaient seulement la perdition éternelle. Et c'est un message qui raconte comment le Fils de Dieu est venu sur la terre dans le but de mourir à la croix, afin que ceux qui se confient en lui puissent recevoir le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Christ est cette bonne nouvelle, il est la parole incarnée, celui qui l'a annoncée, celui qui l'a rendue pleinement vivante et efficace. Mais que nous apporte cette grâce en réalité? Qu'est-ce qu'elle nous apporte cette grâce? La première des choses qu'elle nous apporte, c'est, alors c'est un mot biblique, excusez-moi, mais les mots bibliques, ils sont là pour qu'on puisse les employer, alors on va essayer de l'expliquer, mais bon, ce qu'on entend, on comprend un petit peu ce que ça veut dire. La justification. Ça veut dire quoi la justification? C'est-à-dire je suis justifié ou je suis rendu juste. J'étais injuste, mais par la grâce, je suis rendu juste. Est-ce qu'on doit sans cesse, quelqu'un a commis un crime, il a payé sa peine ou quelqu'un a payé la peine pour lui, peut-on tout le reste de sa vie continuer à lui mettre dans le visage « mais t'es un meurtrier, mais t'es un assassin ». La société doit comprendre que quelqu'un qui a payé sa dette, on ne doit pas sans cesse faire remonter le passé, sinon il n'a plus aucune chance. Il vaudrait mieux lui couper la tête, hein, si on ne lui donne aucune chance de repartir dans la société. Le monde séculier, notre monde à nous, nos lois permettent au coupable de se racheter dès l'instant où il a payé sa dette. Christ a payé notre dette. Nous avons la possibilité d'être considéré, en tout cas aux yeux de Dieu, comme étant juste. La grâce nous a rendus justes. Dans son épître aux Romains, chapitre 3, verset 24, l'apôtre Paul explique que nous sommes gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption, le fait que nous avons été rachetés. Et le moyen de la rédemption, c'est Jésus-Christ. Et cela signifie que nous sommes sauvés gratuitement par sa bonté miséricordieuse, son amour inconditionnel et ses faveurs imméritées. Dans Éphésiens 2:8, Paul va dire « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut que vous actionnez la foi en rapport d'une grâce qui vous a été faite, qui est déjà accomplie. Mais la foi va la saisir. » La comprendre, l'Esprit de Dieu va susciter la foi dans cette grâce, dans ce qui a été accompli à la croix par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La grâce est le don de Dieu et la foi qui nous permet de la saisir est aussi le don de Dieu. Au début, les hommes n'avaient aucun ferme espoir d'être justifiés et sauvés. Mais sous la nouvelle alliance, Dieu a fourni un moyen par lequel les hommes peuvent être sauvés. La foi en Jésus-Christ. Notre salut est gratuit. Nous n'avons pas besoin d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres pour être sauvés. Nous n'avons pas à gagner notre salut. Car Jésus l'a gagné pour nous. Il a tout accompli. De vouloir rajouter, ça veut dire... quoi en clair? Seigneur, ce que tu as fait n'est pas suffisant. Je pense que je dois rajouter quelque chose à ce que tu as accompli. Christ en a payé le prix, celui de sa propre vie. Et Paul déclare que nous sommes justifiés, rendus justes par le moyen de la rédemption, du rachat accompli par le Christ. La justification n'est qu'une partie de notre salut. Mais si nous sommes sauvés, c'est parce que nous avons été justifiés. La justification et le salut vont toujours de pair, ils marchent ensemble. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, on ne peut pas être sauvé si on n'est pas justifié. Et la justification et le salut sont tous les deux des dons de la grâce de Dieu, et tous deux sont accordés par la foi en Jésus-Christ. La justification est le premier cadeau qui découle de la grâce. Elle ouvre la voie pour que nous puissions recevoir tous les autres bienfaits qui en résultent. Si tu ne te sens pas justifié, comment tu vas faire pour recevoir le reste de ce que Dieu a pour toi? Si tu te sens toujours coupable et toujours condamné, tu devrais te poser la question, mais ai-je vraiment été pardonné? S'il a fait tomber les chaînes, ouvert les portes de la prison, mais que tu restes toujours à l'intérieur. Combien de croyants sont dans cet état-là? Il a brisé les chaînes, il a ouvert les portes. Et il dit maintenant, sortez, vous êtes justifiés. J'ai payé le prix. J'ai accompli la condamnation qui vous donne la paix. Le châtiment est tombé sur moi. Sortez! Et toi, tu restes à l'intérieur. Non, mais j'ai fait trop de choses, je ne peux pas sortir. Non, mais vous êtes sûr que Dieu m'a pardonné? Mais les chaînes sont tombées. Non, mais je continue à vivre comme si la chaîne était toujours là. Vous prenez un poisson qui tourne dans un bocal toute la journée et vous le jetez dans la mer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va continuer à tourner. Vous prenez un cheval, vous l'attachez à un poteau avec le harnais. Puis à un moment donné, vous défaites le harnais du poteau. Et le cheval, il reste là. Il est détaché, il peut faire ce qu'il veut, mais il ne bouge pas. Il reste à côté de son poteau. Il continue à se comporter comme s'il était toujours lié, comme s'il était toujours l'esclave, alors qu'il a été libéré. Le poisson continue à tourner, alors qu'il a tout l'océan pour lui. Il est tellement conditionné dans cette petite vie d'esclave qu'il en oublie qu'il a été libéré. Ça ne veut pas dire qu'il peut faire n'importe quoi, mais ça veut dire qu'il prend vraiment conscience de ce que Dieu a accompli pour lui, de la grâce. La foi, c'est l'acceptation de ce don. La foi ne consiste donc pas à faire, mais à recevoir. Les premières choses que les gens, lorsqu'ils viennent à Christ, ils sont tellement conditionnés dans leur tête, la spiritualité. Faut faire quoi quand on est chrétien? Alors moi, ça m'amuse, je dis rien. Mais on doit faire des choses. Ah non, il n'y a rien à faire. C'est tout à recevoir, mais rien à faire. Oui, mais quand je vois dans votre église, il y a des gens qui font. Bah, allez leur poser la question si on les a mis en contrainte de le faire ou s'ils le font parce qu'à un moment donné, ils se sont sentis poussés et ils le font avec amour, avec joie et bonheur. Noémie, les musiciens ce matin, ceux qui étaient à la Sainte-Seine, aux offrandes, etc., ne se sont pas sentis en contrainte de faire ce qu'ils ont fait. Ils le font par bonheur et par joie, il n'y a pas de contrainte. Elle est elle-même un don de Dieu. Elle vient de l'écoute de sa parole. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si tu veux que ta foi augmente, il va falloir que tu t'occupes de lire ta Bible comme il faut. Et pas la contourner, la lire. Et pas dire, oh là, c'est trop compliqué. Non, va la lire, simplement. Laisse Dieu te faire comprendre ce que tu dois comprendre. Et si tu ne comprends pas, tu le comprendras plus tard. Le salut est donc tout entier un don de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire pour le gagner. Nous ne pouvons rien faire pour nous rendre dignes. Le salut est complet dans le sens qu'il n'a aucun défaut et qu'aucune imperfection ne le dénature. Est-ce que je suis plus sauvé aujourd'hui que le jour où j'ai accepté Christ dans mon cœur? Non! Je ne suis pas plus sauvé. Peut-être plus consacré. Peut-être ayant plus de connaissances. Mais je vais vous dire une chose, c'est entre vous et moi. Chut, 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 chut. Le jour où j'ai été sauvé, en tout cas où le salut est devenu réalité dans ma vie, je l'ai compris et bien reçu, Mes péchés ont été pardonnés. Amen. Il y était depuis la croix, mes péchés. Mais là, ça a été acté dans ma vie. Eh bien, vous savez, depuis, il y a encore pas mal de péchés qui ont été pardonnés. Mais il ne faut pas le dire. Je ne sais pas si je suis le seul à qui ça a fait ça. Mais j'ai eu un sacré paquet de péchés de pardonner après que Christ s'est révélé comme étant mon sauveur. Et j'étais pourtant sauvé, hein. Avec toute cette quantité de péchés qui était encore là. Toutes ces choses qui, dans ma vie, ne fonctionnaient pas encore. Quoi, t'es le pasteur ? Et t'es en train de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie ? Ah mais maintenant, ça y est, t'as atteint ! Ah non, pas du tout. Toujours pas, ça dysfonctionne encore pas mal. Il y a encore pas mal de choses qui ne vont pas, croyez-moi. Mais ce n'est pas pour autant que je vais fouler aux pieds la grâce de Dieu pour moi. Sa grâce ne tient pas réellement compte de mon niveau de spiritualité, de ce que je suis pour me pardonner. C'est quelque chose qui a été réalisé. Et plus je le réalise, et plus je le comprends, et plus évidemment l'envie en moi va naître d'essayer de l'aimer davantage et de lui correspondre davantage. Parce que quand on aime une personne, on s'efforce de lui correspondre. Une épouse, elle aime le jaune. Il y a des sœurs en jaune, là. Mais son mari dit, oh, c'est vraiment une couleur que j'aime pas du tout, le jaune. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va s'habiller en jaune tous les jours. Elle va oublier un peu cette couleur qu'elle aime. Puis elle va dire à son mari, c'est quoi que tu aimes ? Ah ben moi, j'aime le rouge. Alors elle va se mettre du rouge. Pour s'efforcer de lui plaire. Parce que peu importe la couleur qu'elle a sur elle, le plus important, c'est que son mari l'aime. Elle va s'oublier un peu dans ses goûts à elle, dans ce qu'elle a envie, pour essayer. Et le mari doit faire pareil, hein. C'est pas que dans le sens des femmes pour les maris doivent faire pareil. Se préoccuper de plaire à leur épouse. Et donc à partir de là, quand on connaît et quand on goûte à l'amour de Dieu, on n'a qu'une envie, c'est de s'efforcer de lui plaire. Et comment je sais ce que Dieu aime ? Ben je lis sa parole, parce que c'est dans sa parole qu'il me dit ce qu'il aime. C'est les lettres qu'il m'a envoyées, c'est les lettres de mon amoureux, de celui qui m'aime, de celui qui me dit « voilà ce que je veux ». L'Église, c'est mon épouse, je suis l'époux, voilà ce que j'aime. C'est quoi mes goûts ? Je la veux sans tache, irrépréhensible. Mais parce qu'elle n'y arrive pas, c'est moi qui vais purifier ses vêtements. Mon épouse n'aura aucune ride, elle ne vieillit pas. Waouh ! Les épouses pourraient se dire jour après jour, ah, les 20 premières années, elles ne se le disent pas, puis après ça arrive. Elles se regardent dans la glace, ça fait « oh mince !»« Oh ! Oh ! » Est-ce qu'il va encore m'aimer ? Est-ce qu'il y a de la trêve pour essayer de cacher tout ça ? Espérant que l'amour de son compagnon, de son mari, ne disparaîtra pas parce qu'elle change. Mais Christ voit l'Église sans tache, sans défaut, irrépréhensible. Il œuvre à sa perfection. Que nous apporte la grâce, elle nous accorde en héritage la vie de Christ, la vie éternelle. Cette vie nous est communiquée par l'abondance de sa grâce. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort ». Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce est supérieure au péché et à la mort. Un chrétien ne devrait jamais mettre le péché supérieur à la grâce ou la mort supérieure à la grâce. La grâce doit tout recouvrir, tout permettre, nous permettre de sortir vainqueurs et sur la mort et sur le péché. Dans Romains 5, 20, il est dit « Là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé. » En fait, il n'y a aucun déficit de grâce. Personne ne peut dire « J'ai pas été assez pardonné pour y arriver. » Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et la grâce devrait nous suffire si nous la laissons se déployer en nous dans toute sa plénitude. Elle contient en elle-même tout l'amour et la mansuétude divine. Elle contient tous les dons de Dieu, le Saint-Esprit vivant en nous, le fruit de l'Esprit et les bénédictions qui nous sont promises par Dieu. Tout ça se retrouve dans la grâce. Mais pour que la grâce du Seigneur se déploie dans sa plénitude, il faut que la force de l'homme soit brisée. Et c'est là où se pose le gros problème et le gros dilemme de nos vies. Que mon moi soit crucifié. Et qu'acceptant notre faiblesse, nous acceptions de ne vivre que par sa grâce. À ne vivre que de cette grâce-là. Et lorsque nous ressentons et acceptons notre faiblesse, lorsque nous capitulons, et désirons de tout notre être dépendre de lui et de lui seul. C'est alors qu'il va nous fortifier. C'est alors qu'il va se glorifier. C'est alors que sa grâce va se manifester pleinement dans toute sa mesure à lui et pas dans la nôtre. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il est dit « Ma grâce te suffit ». Ça ne veut pas dire que je te donne un petit peu et ça te suffit. Non, comprends ce que c'est que ma grâce. Elle te suffit. Juste ma grâce, t'as rien besoin de plus. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si tu reconnais ta faiblesse, ma puissance va venir se manifester en toi. La seule chose que tu te dois de reconnaître, c'est ton véritable état. Un chrétien ne peut vivre dans le déni de ce qu'il est. C'est impossible. S'il vit dans le déni de ce qu'il est, il ne peut pas recevoir ce que Dieu a pour lui. C'est comme l'insensé qui se regarde dans la glace, il voit qu'il a une tache, il fait « Non, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. » Puis il s'en va. Dans un vrai déni de notre état, de notre vie, de notre histoire, de nos maux, de nos troubles, de nos défaillances, de nos dysfonctionnements, de notre cœur qui est toujours à vouloir, à désirer tellement de choses qui en réalité sont vraiment pas bonnes pour lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu sur YouTube, vous irez voir, vous mettez à YouTube des enfants et des chamallows. Et puis là, dans une pièce, avec une caméra, les enfants ne savent pas qu'ils sont filmés, on les assoit à une table, avec une assiette, et on met un chamallow devant eux. Et on les laisse. En leur disant, fais ce que tu veux, mais on te demande de ne pas y toucher. Vous les voyez, ils sont là. Il y en a un, il le prend, il fait. Il tourne autour, il tourne. Il y en a un, il en prend un petit bout comme ça. Puis il mange juste un petit bout comme ça. Et vous les voyez, tous les enfants, les garçons, les filles, ils tournent autour, ils tournent autour. Il y en a un, il croque tout autour pour le faire diminuer comme si ça ne se voyait pas. Que l'autre, il va arriver, il va dire, ah, c'est toujours le chamallow. Il l'a croqué tout autour d'une manière... Ça se voit, hein, on voit les crocs, les marques des dents. Ça fait rire. Peut-être que je vous la ferai, la vidéo, vous verrez. Mais ça fait rire. Mais c'est tellement nous, les grands enfants qui ont mal grandi. On tourne autour. Un petit bout. C'est pas bon, mais c'est bon. Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Reconnais ta faiblesse. Reconnais que tu n'es pas de taille à lutter contre les choses que tu aimes et dont tu n'arrives pas à te séparer. Parce qu'en vérité, ce n'est pas bon pour toi, mais tu les aimes tellement. Il y a tellement des habitudes en toi qui t'amènent à aller te ressourcer auprès de ces choses, alors que je suis moi-même la source d'eau vive, et celui qui boit de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Tu n'as pas besoin de faire une collection de maris, une collection d'épouses, une collection de je ne sais pas quoi, pour combler ton cœur. Oh, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, car la paix découle de la bonne compréhension, c'est-à-dire de la révélation de ce qu'est la grâce. Si la grâce vous est donnée, vous la recevez avec foi. Et l'humilité que Dieu attend de vous, elle se manifestera dans toute sa plénitude en vous et autour de vous. La plénitude se manifeste, et c'est la deuxième partie, on terminera là-dessus. Colossiens chapitre 2, verset 9, « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Vous imaginez ? Est-ce qu'il y a une partie de la divinité en Christ, et après il faut aller chercher l'autre partie dans le Saint-Esprit et l'autre partie en Dieu ? En Christ habite corporellement, Christ incarné, toute la plénitude de la divinité. Je suis dans le Père est en moi. Colossiens 1, 19, Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. La plénitude de Christ est illimitée. Parce qu'il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude, en Christ incarné. En Christ, on trouve toute la plénitude de la divinité, car il est un avec le Père et avec le Saint-Esprit. En lui se trouve toute la divinité, tous les attributs divins, toutes les bénédictions et toutes les promesses de Dieu. Les apôtres ont dit, nous avons vu, nous avons contemplé l'image de Dieu. Dieu s'est fait homme. Il s'est révélé à nous. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la grâce et tout se trouve en un seul Christ. Jean Calvin disait, il s'est humilié pour nous exalter, il s'est asservi pour nous affranchir, il s'est appauvri pour nous enrichir, il a été vendu pour nous racheter, il a été capturé pour nous délivrer, il a été condamné pour nous pardonner, il a été fait malédiction pour notre bénédiction, il est mort pour nous donner la vie. Voilà ce qu'il faut rechercher dans toute l'Écriture, c'est de bien connaître Jésus-Christ et les richesses comprises en lui qui nous sont offertes par Dieu, son Père. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? À quoi il ne répond pas ? Dites-moi ! Qu'est-ce que je dois aller chercher ailleurs ? Il n'est pas suffisant ? En quoi il n'est pas suffisant ? Il a tout accompli. Arrête de chercher ailleurs. D'abord, si tu avais trouvé ailleurs, ça irait pas mieux dans ta vie ? Ça irait pas mieux dans tes enfants si tu avais vraiment trouvé ailleurs, si ce dans quoi tu crois marchait vraiment. Les solutions, tu les aurais mises en place, tout irait bien. Et en réalité, que ferais-tu dans l'église ce matin ? Tu n'aurais rien à y faire. Mais moi, le premier, en vous parlant et vous en étant assis, j'espère que comme moi, vous confessez que vous n'êtes pas tout suffisant et que vous avez un besoin et que ce besoin, ce n'est pas dans le monde que vous recherchez la réponse, c'est en Christ et sa parole. C'est ça le témoignage des chrétiens. En Christ habite toute la plénitude. Et la plénitude, on en avait déjà parlé dans une autre prédication, en grec on l'appelle la pléroma. Et ce mot pléroma, il est super intéressant. Parce que quand on regarde le sens grec, la plénitude ou le pléroma, c'est un terme utilisé pour parler d'un bateau. Quand on attendait un bateau, alors à la Ciotat, on sait ce que c'est que d'attendre les bateaux, non ? Alors on est sur le port et on attend le bateau. Mais ce n'est pas n'importe quel bateau, c'est un bateau équipé et attendu. C'est-à-dire rempli de son fret, ses cales sont pleines. De sa marchandise, de ses marins, de ses ramors et de ses soldats. Quelqu'un était sur le port et il disait, mais qu'est-ce que tu fais là ? J'attends le pléroma. Je sais qu'il va venir. Il ne va pas venir les soutes vides. Il vient tout équipé, il est plein. Tout ce dont j'ai besoin est à l'intérieur. J'ai rien à y rajouter. J'ai rien à faire pour l'attirer jusqu'à moi. Il vient vers moi, je n'ai qu'à l'attendre. Vous sentez-vous rempli de toute cette plénitude divine, de toutes les provisions que Dieu vous a données en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit ? Attendez, répondez pas trop vite. Vous sentez-vous comme un navire marchand amenant son pain de loin, j'oserais dire du ciel, comme la femme vertueuse décrite au Proverbe 31 qui fait le bien et non le mal tous les jours de sa vie. Est-ce que vous vous sentez plutôt comme un bateau avec les cales vides, à moitié vides, ou vous vous demandez c'est laquelle vague qui va me faire couler ? Ou est-ce que vous vous sentez comme ce bateau rempli, rempli de cette grâce ? Car il y a donc une abondance de bénédictions qui se rattache à la grâce de Dieu lorsqu'elle s'écoule pleinement et parfaitement dans nos cœurs. Et voici un aperçu de ce que comprend cette plénitude. Vous voulez bien qu'on aille visiter les cales d'un bateau rempli ? Comme ça, vous verrez si c'est dans votre cœur. Mais sachez que c'est ce que Dieu veut voir dans vos vies. Il n'est pas mort sur la croix pour rien, Jésus. Une plénitude d'amour fraternel, de bon cœur et de bonne faculté de perception. La plénitude, le renouvellement de l'intelligence. Moi, quand il y en a qui me disent « Ah, mais c'est trop compliqué, moi je comprends pas. » Alors Dieu t'a appelé au salut pour pas comprendre ce que la Bible dit. Moi, mon père, quand il me disait quelque chose, j'avais beau être petit, je comprenais ce qu'il me disait. Et des fois, il n'avait même pas besoin de parler. Quand je voyais sa figure, j'avais tout de suite compris ce qu'il voulait me dire. « Alors, mais Dieu, je ne le comprends pas, lui !» Mais il s'est fait homme au milieu de nous, pour nous parler. Il a pris notre vocabulaire, notre langage. Il est venu au milieu de nous, pour se révéler à nous, et nous, on dit « Ah, mais on ne comprend pas, c'est trop compliqué. » C'est trop compliqué ou on cherche une excuse d'esquiver ? J'ai connu des enfants de 4 ans qui avaient compris la révélation du salut, qui marchaient dans la sainteté et qui savaient que Christ était la parole, le Verbe incarné qui était venu pour sauver leur vie. 4 ans. 4 ans. Avoir reçu la révélation. Vous allez me dire, ah, mais ça n'a pas duré. Va aller à quel âge la personne de 4 ans aujourd'hui ? Ou 7 ans, c'était. Elle avait 7 ans. Elle a quel âge ? Elle a bientôt 30. Voilà, c'est ma fille. À 7 ans, elle avait compris le message de la foi et tout ce qui allait avec. À 11 ans, elle voulait se faire baptiser. Je veux me faire baptiser, je veux me faire... Non, tu ne te feras pas baptiser, tu attendras d'avoir 16 ans. Puis elle avait vu que... Peut-on refuser le baptême d'eau à quelqu'un qui est baptisé, rempli du Saint-Esprit ? Oh, la maligne ! Papa, si je suis rempli du Saint-Esprit, tu vas devoir me baptiser ? Écoute, on verra quand tu seras rempli du Saint-Esprit. Ben, ça n'a pas mis longtemps. À 11 ans, elle était à genoux, à 12 ans, à genoux, en larmes, dans l'église, remplie du Saint-Esprit. Et à 12 ans, je l'ai baptisée. Il y a des lois, il y a des règles. Mais que peut-on faire quand quelqu'un se tient fidèle dans la parole de Dieu et recherche sa plénitude, la reçoit ? Ah, j'ai 40 ans, moi je changerai plus. J'ai 50 ans, je changerai plus. J'ai 60 ans, 70 ans. C'est trop compliqué la Bible. Pouh. Moi je veux avoir une relation à Dieu sans la Bible. Ben non, il n'y a pas de relation à Dieu sans la Bible. C'est pas possible. Il se révèle par sa parole. C'est incontournable. Une plénitude d'espérance. Qui a besoin de l'espérance dans sa vie ? Dans le monde dans lequel on vit, si tu n'as pas d'espérance, mon pauvre, ma pauvre, je te plains. Une plénitude d'espérance, une plénitude de douceur, de gentillesse et de docilité. Une plénitude de consolation et d'intelligence spirituelle. On continue ? Ça va ? Vous avez tout ça dans les cales de votre bateau ? Une plénitude de courage et de hardiesse. Une plénitude de joie, de paix, de bonté et de connaissance. Vous avez tous les textes bibliques en face pour aller consulter tout ce que je vous dis. Une plénitude de tendresse. Lâche-moi. Une plénitude de foi, du Saint-Esprit et de puissance. Une plénitude d'amour agapé. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 23, il est écrit que c'est Christ lui-même qui remplit tout en tous et qui remplit donc l'Église qui est son corps. L'Église doit être ce bateau de sauvetage, ce navire rempli de provisions célestes, équipé de tous les dons, de toutes les armes spirituelles, ce navire attendu pour combattre le bon combat de la foi, remporter victoire sur victoire, pour œuvrer au salut du monde. En elle se trouve toute la présence, la puissance, l'action et les richesses de Dieu, car elle a pour mission de manifester la gloire et les perfections du Seigneur aux yeux de tous. Dieu remplit totalement l'univers par son omniprésence. Il est présent partout. Et il déverse sa grâce commune à l'humanité entière. C'est quoi la grâce commune ? Parce qu'il y a la grâce qui sauve, Et il y a la grâce commune. C'est quoi la grâce commune ? Il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Dieu accorde ses bénédictions aux incroyants. Il ne dit pas, si tu n'es pas croyant, tu n'auras rien. Rien. Le jour où tu me reconnaîtras, alors là, je commencerai à agir dans ta vie. Dieu bénit les incroyants. Et parfois, il les bénit pour qu'ils nous bénissent. J'ai été béni plein de fois par les incroyants, moi. Et que Dieu soit béni. Je suis allé voir mon médecin. Je peux vous parler 2 minutes de mon médecin ? Je suis allé voir mon médecin vendredi. Et je l'ai remercié. Je lui dis, je peux vous remercier, docteur ? Il me regarde avec des yeux. Je lui dis, oui, parce que vous êtes... Je voudrais vous remercier parce que vous êtes en train d'aider ma femme à sortir de la vallée profonde dans laquelle elle était. Il dit, je prends, vous savez. Parce que vous êtes le seul dans toute ma carrière qui m'a remercié. Le seul. Des reproches, j'en ai eu, mais beaucoup. Parce que je suis un homme, je peux faire des erreurs, je peux ne pas atteindre l'objectif que je vise. Et là, des reproches, j'en ai eu, mais des remerciements, non. Il me dit, vous savez, il y a beaucoup de jeunes pasteurs, de jeunes docteurs qui sont en burn-out aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils travaillent de trop, c'est parce qu'ils ne sont pas assez considérés. Je lui dis, vous savez, docteur, je viens de changer de docteur pour être avec le même docteur que mon épouse. Ça simplifie les choses. Je lui dis, mais mon ancien docteur, je faisais quelque chose fréquemment et j'aimerais savoir si je peux le faire avec vous. Regarde, l'air de dire, qu'est-ce qu'il va me dire ? Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous allez ? Il me dit, c'est vrai que si votre docteur va pas bien, il pourra pas bien vous soigner. Je dis, vous avez compris. Il me dit, mais vous savez, j'ai un arrière-plan protestant. Je ne pratique pas, mais j'ai un arrière-plan protestant. Mes parents sont des protestants. Et je sais reconnaître ce que vous êtes en train de me dire. Alors petit à petit, je tisse une relation avec mon médecin. Maintenant, je peux lui demander comment il va. Et s'il me dit qu'il ne va pas bien, je lui ferai mon ordonnance et je lui donnerai quelques médicaments que je connais bien. J'ai une boîte de vitamine C. Vous connaissez la vitamine C ? La vitamine Christ. Oh, comme je pense qu'il en a besoin lui aussi. La grâce commune. Cet homme a une grâce sur sa vie et je le vois. Qu'est-ce que Dieu fera avec lui ? J'en sais rien. Mais Dieu bénit mon boulanger, Dieu bénit mon boucher, Dieu bénit tous les gens qui m'entourent, je le vois faire. Ça, c'est la grâce commune. Mais l'Église doit être le lieu où sa présence est la plus tangible, la plus palpable, parce qu'en plus de la grâce commune dont nous bénéficions, comme chaque homme et chaque femme de ce monde, nous bénéficions aussi d'une grâce particulière. D'une grâce particulière. Mon médecin a une attention particulière pour moi parce que je suis son patient. Mais quand il rentre chez lui, quelle est la grâce qu'il déploie sur ses propres enfants ? Est-ce que c'est la même dont il déploie sur ma vie ? Non, avec ses enfants, il a une grâce particulière avec eux. S'ils sont malades, à plus forte raison, il donnera de quoi les soigner. Mais il y a une relation qui l'unit à ses enfants d'une manière encore particulière. Alors il y a la grâce commune et la grâce particulière, et nous, dans l'Église, on ne jouit pas seulement de la grâce commune, mais aussi de cette grâce particulière. Or, la plénitude du Christ dans l'Église n'existe qu'à travers l'unité de tous les croyants dès l'instant où chacun est lui-même rempli du Christ par le Saint-Esprit. Ainsi, la responsabilité de la plénitude du Christ dans l'Église ne repose pas sur une quelconque institution ou une organisation, mais sur chaque croyant, sur chaque marin du bateau, sur chaque rameur, sur chaque soldat de ce grand navire dans lequel chacun doit être à son poste et accomplir sa tâche. Et pour finir, à midi, j'oserais demander... Pourquoi vous riez ? Qui ici se sent rempli de toute la plénitude de Dieu? Waouh, je suis trop content de voir toutes ces mains levées. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est ça? Tu ne peux pas te contenter. Il n'est pas venu pour être à moitié, pour qu'on soit à moitié. Qui se sent rempli de grâce pour aimer comme Dieu aime? Qui déborde de provisions divines, de dons célestes? Qui va de l'avant invincible grâce aux armes spirituelles que Christ lui a données? Ce n'est pas des questions pour vous culpabiliser. Ce n'est pas mon objectif du tout de vous culpabiliser. Mais de faire un vrai constat et de dire, on ne peut plus jouer là. Il y a trop de gens qui l'attendent, le pléroma. La création soupire après la révélation des fils et des filles de Dieu. Ils attendent qu'une chose, c'est que le bateau arrive. Ils meurent de faim dans leur vie. Ils ont besoin qu'on puisse leur apporter ce que nous avons. Rappelez-vous notre texte d'introduction dans Jean 1,16. Nous avons tous été comblés de ces richesses. Pourtant, je vous ai posé les questions. Qui est plein? Qui est rempli? Je n'ai pas vu de main. Nous avons tous été comblés de ces richesses. Le pasteur et sa femme? Sa fille et son gendre? Le stagiaire? Et tous les autres? Que dalle. Tous! Tous, on a tous été remplis de ces richesses, tous. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit, lui. Chacun. Tu peux pas dire, ah mais lui, il a eu plus que moi. Non, c'est faux, détrompe-toi. J'en ai pas plus que toi. A reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. Alors je vous le demande encore. Qui se sent comblé de ses richesses célestes? Ah ça y est, les mains se lèvent, enfin. Alors par là, je sais pas, il pleut par là, mais par là, il pleut pas, quoi. Je la refais. Qui se sent comblé de ses richesses célestes? Mais levez la main. La table est pleine et vous dites, je sais pas. Qui a reçu cette surabondance divine au point d'être rempli à ras-bord chaque jour de sa vie? Je suis rempli et je fais comme si j'étais vide. C'est pas un tout à recevoir, c'est un tout est déjà reçu. Sinon, quel est le problème, sincèrement? C'est quoi le problème? Permettez-moi de citer encore juste un homme, parce que lui, il a mis le pied dedans, quoi. Faut permettre à certains hommes, des fois, de mettre le pied dedans. Alors, ça défrise certains, mais tant pis, si ça nous fait tous avancer. Moi, j'aime bien, à un moment donné, qu'on puisse dire les choses et qu'on fasse les constats, parce que sinon, ça changera jamais. On a beau se frotter le ventre et penser qu'on est les meilleurs, on peut pas changer comme ça. Alors, Blaise Pascal, vous le connaissez, mathématicien célèbre, mais aussi théologien. Blaise Pascal va dire, il y eut autrefois dans l'homme un véritable bonheur. Autrefois. Dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace vide qu'il essaie de remplir inutilement avec tout ce qui l'environne. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas dans le présent. Or, toutes sont inadéquates, inappropriées, parce que ce gouffre infini dans notre cœur ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, qui ne change pas. C'est-à-dire, par Dieu lui-même. Tu peux essayer de remplir le cœur avec toutes sortes de choses. Le vide est infini. Il faut que on le remplisse avec quelque chose qui est tout autant infini. Et il n'y a que Dieu qui l'est. Que l'homme qui n'a pas connu Dieu éprouve ce vide est normal. C'est normal. Mais que les chrétiens nés de nouveau ne se sentent pas pleins, ou pire qu'ils se sentent vides, on ne peut pas dire que c'est normal. C'est pas normal. Alors avant de terminer, j'aimerais vous donner quelques pistes de réflexion pour comprendre ce qui vous empêche peut-être d'être rempli de toute la plénitude que Dieu vous a pourtant déjà offerte en Christ entre le déjà et le pas encore. Ça va ? C'est ma petite ordonnance. Avez-vous conservé une armure de protection humaine sur laquelle glissent les bénédictions divines sans pouvoir atteindre le fond de votre cœur ? Je me protège. Je ne veux plus souffrir. Je me protège. J'ai une armure, un blindage. Celui qui est à l'intérieur, il est trop petit, il ne pourra pas y arriver. Alors j'ai mis une grosse carapace autour pour plus souffrir. Quand tu le vois arriver, c'est Robocop. Et un petit au club, il dit « Moi, je suis Robocop !» Il n'est pas là ce matin. Les moniteurs, ils doivent savoir qui c'est. « Je suis Robocop !» Puis quand vous allez le voir et que vous appuyez un petit peu, il a un cœur tendre, mais c'est un truc de fou. Il pleure pour rien. Quand vous le voyez, vous avez l'impression d'un fonceur qui va tout défoncer. Les petits autour, ils ont peur de lui. Mais en réalité, il a un cœur qui est comme ça. Alors il se protège pour pas souffrir. Tout petit, il a déjà compris les mécanismes de défense dans la personne humaine. Mais toi, ce matin, toi qui es grand là, avec ton cœur, tu t'interdis à aimer parce qu'un jour t'as souffert, t'as été trahi et depuis tu dis, pour plus souffrir, je vais mettre une grosse carapace autour. Ah mais depuis, tu ressens encore l'amour ? Tu goûtes encore l'amour des autres ? T'arrives à leur communiquer ton amour ? Parce que tu reçois plus rien, mais tu communiques plus rien non plus. T'es seul. Et Dieu veut que la carapace tombe. Et il fait tomber actuellement les carapaces. Souvenez bien de ce que je vous ai dit ce matin. Il est en train de faire tomber les carapaces, les blindages, les tenues de camouflage, les casques lourds. Mais il fait tomber les blindages, les casques lourds. Tout ce qui en nous, là, est là pour défendre notre gros cœur qui a peur et qui saigne encore, peut-être. Avez-vous dans votre cœur des pierres, voire des rochers lancés par vos ennemis ? C'est quoi ça ? Vous savez que dans l'Ancien Testament, quand on voulait maudire un homme, on allait auprès de son champ et on jetait plein de pierres dans son champ. Un champ rempli de pierres n'est plus cultivable. C'était une manière de le maudire. Regarde, maintenant il va falloir que tu ailles tout ramasser. Est-ce que des gens vous ont jeté des pierres dans vos champs ? Des pierres de médisance, des pierres de maltraitance. Des gens de l'extérieur ont dit « Allez, je vais y jeter des pierres. Et combien de pierres je vais jeter dans sa vie ? » Avez-vous dans votre cœur des pierres, voire des rochers lancés par vos ennemis ? Des gens qui ont voulu vous agresser pour abuser de vous ? Qui prennent tellement de place dans vos cœurs, qu'il n'y a même plus de place pour la plénitude de la grâce et de toutes les bénédictions que Dieu veut vous offrir ? Il faut accepter que Dieu libère de la place avant de recevoir ce qu'il a à nous donner. Il faut vider avant de remplir. Accepte que ça vide. Ça fait tellement de bien quand ça sort. Avez-vous des ornières, des tranchées de guerre, des marnières ? Est-ce que vous connaissez les marnières ? J'en parlais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis issu de la Normandie et en Normandie, on a des marnières. C'est-à-dire, en fait, les agriculteurs, pour enrichir leur terrain, leur sol, vont l'enrichir avec de la craie, de la marne. Alors comme ils savent que sous leur champ, il y a de la marne, ils creusent sous le champ. Ils creusent. Alors de temps en temps, ils laissent comme un pilier qui n'est pas taillé. Et puis ils creusent. Et des fois, les marnières, c'est énorme. Allez sur Internet, tapez marnière. C'est énorme. En fait, vous regardez le champ, il est tout droit, il n'y a pas de problème. Mais en dessous, c'est creux. Et puis, des années après, le cultivateur, il meurt. Et puis son fils, il dit, moi, je ne serai pas cultivateur, je veux être garagiste. Alors les terres sont vendues. Et puis des fois, à des gens qui vont les vendre pour faire de l'habitation. Et des gens construisent leur maison là-dessus. Et vous regardez sur Internet, il y a des maisons vous y voyez plus que le toit. Allez dans la marnière. Parce que le sol avec les infiltrations s'est totalement affaissé et la maison est partie dans la marnière. En apparence, tu vois rien. Mais en dessous, là, c'est creux. C'est vide. C'est pas plein. C'est pas rempli. Ça menace l'effondrement d'un jour à l'autre. Aujourd'hui, en Normandie, quand tu achètes une maison, il y a une étude des sols pour savoir s'il n'y a pas une marnière en dessous. Parce que, évidemment, hein, tous les notaires et tout qui ont vendu des maisons sur marnière, je ne vous raconte pas les problèmes qu'il y a eu au niveau de la justice. Est-ce qu'il y a dans ton cœur des ornières? Ça, c'est apparent. Des tranchées de guerre. Quand il sort, je le descends. Des marnières qui sont comme des gouffres béants, des puits sans fond où les grâces divines se perdent. Amen. Vos cœurs sont-ils pleins de ronces comme autant de préoccupations, de soucis ou de projets personnels qui laissent si peu de place aux grâces divines? Quel état est ton champ? Marnière en dessous? Ronces dessus? Ou peut-être vos âmes sont-elles déjà remplies des trésors factices auxquels vous vous accrochez, tels les biens matériels, l'argent et toute autre idole personnelle? Eh bien, Blaise Pascal dira, et je termine, dans ce qu'on appelle les pensées de Pascal, que le vide à l'intérieur du cœur de l'homme ne pouvait être comblé que par Dieu et que l'homme a tenté de répondre à ce vide sans Dieu à travers ce qu'il appelle les divertissements. Et vous savez ce que c'est que l'étymologie de divertissement? En latin, c'est divertire et c'est l'action de détourner. Le divertissement nous détourne du véritable objectif, nous détourne de ce qui remplit notre cœur. Le divertissement est le moyen pour l'homme d'esquiver la solitude qui le renverrait à sa condition misérable. Et Pascal disait, la seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement. D'ailleurs, on peut rester de 2 heures devant un divertissement, un bon film, et on n'arrive pas à rester 2 heures à la prédication. Posez-vous des questions. La seule chose qui nous console de nos misères est le divertissement, et cependant, c'est la plus grande de nos misères. Car c'est cela qui nous empêche principalement de songer à nous, et qui nous fait perdre insensiblement. C'est cela, sans cela, nous serions dans l'ennui, et cet ennui nous pousserait à chercher un moyen plus solide d'en sortir. Mais le divertissement nous amuse, et nous fait arriver insensiblement à la mort. Et Pascal voyait que le divertissement mené à la mort car il a pour but d'occuper vainement nos pensées, nous permettant ainsi d'oublier notre triste condition. Mais le christianisme est clair sur le fait de devoir considérer notre état pour réaliser notre besoin du Sauveur et de sa plénitude. En nous divertissant, nous tentons humainement de combler les vides de nos vies. Nous luttons ainsi contre la nécessaire révélation de celui qui remplit tout en tous. Mais la mission de l'Église n'est donc pas de divertir, mais bien d'amener chaque personne à prendre conscience de leur vide, de leur pauvreté, de leur souillure intérieure, afin de pouvoir les conduire à la source du salut qui peut efficacement les remplir. Et si vous désirez vivre dans sa plénitude, la plénitude de sa grâce, ouvrez vos cœurs afin que Christ ne s'y sente pas à l'étroit, et avec l'aide de Dieu, dépouillez-vous de vos armures. Pour revêtir Christ, débarrassez-vous de toutes les pierres par des pardons. Pardonnez! Arrachez toutes les ronces et jetez tous les immondices qui empêchent Dieu de vous remplir de ses trésors célestes, en réalisant que rien ne pourra les remplacer, que rien d'autre que Dieu ne pourra vous combler. Christ est celui que le prophète Ésaïe a annoncé lorsqu'il a dit au chapitre 45, versets 2 et 3, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. » Quelles portes doivent s'ouvrir ce matin? Quels verrous doivent sauter? Quels chemins doivent être aplanis afin que Christ atteigne et remplisse vos cœurs à ras-bord? Dans Luc 3.5, Luc l'a répété, « Par la grâce de Dieu en Christ, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, les chemins raboteux seront aplanis. » Il fait un travail dans nos cœurs. Il remplit les creux, les vides. Il comble, il aplanit. Il rend le pays habitable. Afin que la plénitude de la grâce remplisse chacun de vos cœurs, chacune de vos vies, pour qu'elle remplisse l'Église. C'est ce que Dieu veut faire ici et maintenant. C'est ce qu'il a commandé à faire dans beaucoup de vies. C'est ce qu'il a commencé à faire dans beaucoup de vies. Et c'est ce qu'il continuera de faire pour nous communiquer sa plénitude de grâce infinie jusqu'au jour où nous en serons parfaitement comblés pour l'éternité. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. La grâce, ce n'est pas une couche qui recouvre. C'est une abondance qui remplit. Ce n'est pas un vernis posé sur nos vies. C'est la substance même sur laquelle nos vies doivent se fonder. C'est le roc séculaire, le rocher des siècles sur lequel nous pouvons nous poser avec assurance. Un rocher inébranlable. Fais reposer ta vie sur cette grâce, sur Christ. Et tu connaîtras la plénitude de celui qui remplit tout en tous. La parole vivante, le Verbe incarné.